à l'épreuve des faits. Céline Pitlet.
Et avant d'ouvrir notre dossier consacré à la violence dans les campagnes, on va faire un point sur l'enquête une semaine après le drame de Crépol qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans, tué par arme blanche. C'était en marge d'un bal de village. Boris Karlamov, vous êtes devant le palais de justice de Valence. Au total, 9 gardés à vue doivent être présentés à la justice cet après-midi.
Oui, effectivement, et ces gardés à vue, eh bien, ils présentent des profils différents. 3 d'entre eux sont mineurs, tous âgés de plus de 16 ans. L'un d'eux est déjà placé sous contrôle judiciaire car mis en cause dans 2 affaires délictuelles. Les 6 autres sont forcément majeurs, hein. 4 ont un casier judiciaire, notamment pour des infractions judiciaires, pour des infractions routières, pardon, à la législation sur les stupéfiants ou encore pour des faits de violence aggravées. Quant au principal suspect dans cette affaire, celui qu'on soupçonne en fait d'être l'auteur du coup de couteau mortel. Il est âgé de 20 ans, il est de nationalité française, il est né à Romans sur Isère et le procureur, eh bien, il y a quelques jours, il a précisé qu'il n'était pas originaire du quartier de la Monnaie. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a certains de ces gardés à vue qui habitent dans ce quartier de la Monnaie. On s'y est rendu il y a quelques jours avec Laura Champion, on a pu échanger avec les jeunes de ce quartier, on a pu échanger même avec des amis de ces suspects. Tous dans ce quartier condamnent ce qu'il s'est passé il y a maintenant une semaine. Le principal suspect, il a 2 condamnations à son casier judiciaire. Tout d'abord pour recel de vol et port d'armes blanches de catégorie. Et il avait notamment une interdiction d'en porter une au moment des faits.
Merci beaucoup Boris, vous restez avec nous, on vous retrouvera dans un instant. Vincent, on va reprendre certaines déclarations politiques qui ont été assez rapides hein, après le drame, notamment à droite et à l'extrême droite, et notamment Éric Zemmour qui dès lundi matin a tweeté, hein, le président de Reconquête, Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas 2 minutes de silence à l'Assemblée. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeutes comme d'habitude. Certains tairont son assassinat par des racailles venues à Crépol, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français. Ce message d'ailleurs il a été repris aussi par l'Action française, qui est un mouvement nationaliste et royaliste, qui a même affiché ses messages hein, sur les grilles devant le lycée de Thomas cette semaine. On le voit sur ces images de Colline Chambol. Cette notion d'individu venu pour s'en prendre à des Français, une semaine après le drame, qu'en est-il? Que sait-on?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce tweet d'Éric Zemmour, il était pour tout le moins prématuré et sans doute un petit peu réducteur parce qu'effectivement, aujourd'hui, une semaine après le drame, on n'a aucune certitude quant à ce qu'il annonce sur le mobile, en tout cas, de ces jeunes qui étaient venus tuer des Français. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Déjà, est-ce qu'ils sont venus spécifiquement pour en découdre? C'était l'une des thèses qui était avancée au début, une expédition punitive, une expédition programmée, comme s'ils voulaient s'en prendre spécifiquement à quelqu'un. Cette thèse, elle est battue en brèche aujourd'hui parce qu'on a découvert qu'il y avait eu en fait 2 groupes qui étaient arrivés, 2 vagues successives. D'abord, un premier groupe de jeunes qui était arrivé pour danser, faire la fête, boire des verres, qui a été rejoint par la suite par un deuxième groupe. Il y a eu des échanges téléphoniques. Est-ce que ce deuxième groupe est venu en renfort? On ne peut pas l'affirmer à l'heure actuelle. Aucun élément dans le dossier ne permet de l'affirmer. Ensuite, sur cette thèse, ce mobile, est-ce qu'ils sont venus pour tuer des Français ou tuer des Blancs, comme cela a été dit à plusieurs reprises? Là encore, il est prématuré de le dire. On aura sans doute une information judiciaire qui va être ouverte dans l'après-midi et des investigations longues pour pouvoir le démontrer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs témoins qui ont affirmé « Oui, ces jeunes nous ont dit « on va tuer des Blancs », mais c'est intervenu dans un cadre où il y avait des insultes qui fusaient des 2 côtés ». Donc, est-ce qu'on peut en déduire que c'était le mobile? Sans doute pas. D'après les enquêteurs, il y a plusieurs raisons qui ont contribué à cet échange de violence, au fait que la situation a dégénéré pour aboutir malheureusement à la mort de ce jeune Thomas âgé de 16 ans.
Ces jeunes, ces suspects, est-ce qu'on sait s'ils sont originaires du village de Crépol ou est-ce qu'ils sont extérieurs à ce village?
Alors, là aussi, sur ce point-là, dès le départ, on a dit c'est une bande venue de Romans-sur-Isère, voilà, une ville située à 15 km au sud de Crépol qui serait donc venue dans cette espèce d'expédition punitive programmée. Et l'un des quartiers de Romans-sur-Isère, le quartier de la Monnaie, pour ne pas le citer, a été visé. Or, le principal suspect, celui qui est soupçonné d'avoir porté les coups de couteau mortels à Thomas, n'est pas originaire de ce quartier. Il est né et il habitait dans le centre de Romans-sur-Isère. Donc là aussi, il y a eu une espèce d'amalgame qui a été fait très rapidement pour pointer du doigt un quartier. On sait aussi que l'un des jeunes suspects habitait dans la région de Toulouse. Un autre était né en Italie. Donc, effectivement, ils avaient des attaches dans le secteur, mais on ne peut pas dire qu'ils venaient tous du même quartier.
Alors, ce drame s'est produit il y a une semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Drame qui a bouleversé le village de Crépol avec une énorme émotion hier, notamment lors des obsèques de Thomas.
Mon fils a joué au club de rugby de Beaupère, donc il a eu certainement l'occasion de l'affronter, entre guillemets. Après, je suis maman d'un enfant du même âge, donc on est forcément touché et meurtri. Ça pourrait être l'enfant de tout le monde. Et on était obligé de soutenir les parents dans cette tragédie. Tragédie qui touche une région, un pays, un tout petit village de 500 âmes. Donc on se dit, on n'est plus épargné nulle part. Il va falloir que justice arrête de rimer avec laxisme et que les décisions soient prises et soient fermes. Parce que c'est trop. Il m'en falloir encore combien de Thomas pour que il se passe quelque chose et que ça s'arrête. Ça s'arrête.
Boris, on l'entend dans ce témoignage et vous l'avez constaté également, hein, les habitants de Crépol sont encore meurtris par ce drame.
Oui, effectivement, on est ici depuis maintenant plusieurs jours et il faut dire que cette semaine, il y a eu de nombreux moments d'hommage, de nombreux moments de recueillement. Tout d'abord, mercredi après-midi, il y a eu cette marche blanche. Plus de 6000 personnes ont déambulé dans les rues de Romans-sur-Isère pour rendre hommage à ce jeune Thomas. Il y a eu ce point de départ devant son lycée, le lycée du Dauphiné. 1,5 km plus loin, l'arrivée au stade Donadieu. C'est là-bas que Thomas avait l'habitude de fouler les terrains de rugby au centre de son club du rugby club de Romans-PH. Beaucoup d'émotions lors de cette marche blanche. Le lendemain, le jeudi, il y a eu une veillée à Crépol. Crépol, c'est le village où les faits se sont déroulés. Plus de 500 personnes ont participé dans le silence, se sont recueillies, ont fait des prières, entonné des chants donc pour rendre hommage à Thomas au sein même de l'église, initiative même de la paroisse. Et puis on le disait, forcément, le moment des obsèques, hier matin, 2h30 de cérémonie, énormément de personnes, plus de 1000 personnes selon la gendarmerie, avec de forts moments d'émotion, des prises de parole très touchantes de la part des proches de Thomas, à commencer par son grand-père, et puis ce dernier adieu donc hier après-midi lors de l'inhumation dans un cimetière de la région, inhumation dans la plus stricte intimité familiale.
Merci beaucoup Boris Kharlamov avec Pierre-Louis Cretin. Alors, y a-t-il de plus en plus de violence dans nos campagnes? Cette idée-là aussi a émergé, notamment chez Marine Le Pen lundi matin avec ce tweet « Fête de village, mariage, fête d'anniversaire ». Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables razzias. Attaque au couteau, agression d'une brutalité inouïe, trop c'est trop. Message décliné aussi par les amis de Marine Le Pen sur les plateaux télé.
L'insécurité dans les communes rurales explose par rapport à ce que c'était avant. Que ça ressemble de plus en plus à la France orange mécanique qu'on nous décrit depuis des années, c'est une réalité aussi, malheureusement. Que cette violence, que cet ensauvagement, que cette délinquance part des centres urbains pour aller vers maintenant la périphérie et évidemment les communes rurales, c'est une réalité aussi.
Des propos qui font bondir le président des maires ruraux de France, écoutez.
Je trouve franchement que c'est un peu exagéré quand même. On a l'impression qu'on se retrouve au Moyen-Âge où des bandes armées envahissent les territoires. Il ne faut pas exagérer. Il y a de la violence, mais il y a de la violence partout dans notre société à l'heure actuelle. Ça veut dire que cette violence, elle s'exprime aussi bien d'ailleurs chez des adultes que chez des jeunes. Donc c'est un village de 500 habitants, Crépol. Et quelquefois, il y a effectivement, mais comme dans beaucoup de réunions de jeunes, il y a quelques bagarres. Par contre, là, ça a dépassé ce cadre. Mais pour dire qu'il y a vraiment un envahissement d'une forme de terreur dans la ruralité, il ne faut pas exagérer. Quand même.
Y a-t-il plus de violence en ville ou à la campagne? On a épluché les chiffres du SSMSI, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur, ceux des homicides notamment, publiés il y a 2 mois. Que disent ces chiffres, Chloé Giraud?
Eh bien, l'année dernière, en 2022, il y a eu 959 homicides en France, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Mais que représente cette hausse et dans quelle mesure touche-t-elle les zones rurales? Écoutez la réponse de notre consultant en police-justice, Guillaume Fard.
Sur ces plus 9%, c'est davantage lié à des règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants en milieu urbain qu'à des rixes mortels en milieu rural. Et quand on va dans le détail, d'ailleurs, il y a eu 959 homicides en 2022. Il y en avait précisément 1140 en 2008, 15 ans en arrière. Donc la tendance globale, elle est plutôt à la baisse. Même si il est vrai que en 2020, parce que c'était une année de Covid, on avait atteint un point bas avec 823. Donc en fait, vous naviguez entre 800 et 1200, on va dire. Mais donc il y a pas d'explosion. Et si vous résidez dans une commune qui est une commune de moins de 2000 habitants, puisque c'est le cas de Crépol, votre chance statistique d'être victime d'homicide, elle est deux fois moindre que la moyenne nationale.
Et c'est effectivement ce que disent les chiffres. Hein, le nombre moyen d'homicides sur la France entière est de 1,4 pour 100 000 habitants. Mais quand on regarde dans le détail, eh bien, on se rend compte qu'il est plus élevé pour les très grandes villes de 100 à 200 000 habitants. C'est 3 homicides pour 100 000 habitants. Dans les grandes villes de 50 à 100 000 habitants, il est de 1,6 pour 100 000 habitants. Et hors unité urbaine, donc cette fois-ci plutôt dans les zones rurales, eh bien, il est de 0,8 pour 100 000 habitants, toujours selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Et puis, au-delà des homicides, sur tous les indicateurs de l'insécurité en général, qu'il s'agisse des coups et blessures volontaires, des cambriolages, des tentatives de viol ou encore des viols, eh bien, ces habitants des zones rurales de moins de 2000 habitants, ils sont plus préservés que ceux qui habitent dans les centres urbains. C'est ce qu'on lit dans le rapport d'Interstat, le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui a publié en mars dernier une analyse sur la géographie de l'indélinquance. Regardez, le nombre d'actes de délinquance enregistrés pour 1000 habitants est systématiquement plus élevé dans les grandes communes que dans les petites.
Merci beaucoup Chloé Giraud. Jérôme Poirot, certains politiques ont dit « la violence des villes est en train d'arriver dans les campagnes ». Est-ce que c'est vrai ?
Alors, c'est vrai, c'est faux. Alors, dans tout ce qui a été dit, dans tous les chiffres qui ont été montrés, donc les chiffres du ministère de l'Intérieur sont incontestables. Mais il y a un phénomène très important qui est vecteur de violence et de délinquance, c'est le trafic de drogue. Mmh. Et le trafic de drogue, maintenant depuis des années, inonde aussi les petites villes et même les campagnes. Et le trafic de drogue dans les campagnes n'a pas le niveau de violence avec les règlements de compte que l'on connaît à Marseille, par exemple, puisque c'est là où c'est le plus spectaculaire, mais c'est un facteur d'aggravation des violences. Alors, dans ce que vous avez montré à travers ces chiffres, si on met de côté les homicides, c'est quand même une forme de violence très très particulière, et vous l'avez dit, c'est moins de 1000 homicides par an. Mais pour les autres types de violences, évidemment, il y en a moins dans les campagnes. Plus on est dans le milieu rural, moins il y en a, pour un tas de raisons. D'abord, la densité urbaine est moins forte, et puis il y a une forme de contrôle social. Ça a été très bien exposé dans des témoignages que vous avez recueillis toute cette semaine après les événements de Crépol. Les gens disaient, on se connaît, c'est une petite région, il y a quelques villages, donc les gens circulent, se connaissent. Cette forme de contrôle social est une prévention très forte contre la délinquance. Mais le point, je pense, le plus important, c'est que justement parce qu'il y a moins de délinquance, moins de violence volontaire dans ces campagnes, quand ça se produit, ça a un plus fort retentissement et ça inquiète beaucoup plus les populations. On l'a vu encore dans tout ce qui a été dit, et la dame tout à l'heure qui était aux obsèques, que vous avez interviewé, qui était aux obsèques hier de Thomas, le dit. Elle a un fils de 17 ans, ça aurait pu arriver à son fils ou à toute autre personne, et on l'a vu dans d'autres témoignages. Les parents disent on ne laisse plus sortir nos enfants. Donc le retentissement est considérable. Et donc, on peut comprendre que ça ait un impact très important et ça peut potentiellement d'ailleurs avoir aussi des traductions politiques.
Alors, je vois que vos propos font réagir, Vincent, sur ce retentissement des affaires peut-être en milieu rural.
Non, mais effectivement, c'est important de le souligner sur le retentissement et la façon dont les choses sont perçues. Un exemple tout simple, on a beaucoup parlé de la situation à Marseille et des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. On a l'habitude maintenant de lire ça comme si on égrenait une vérité qu'on ne peut pas arrêter. Tiens, il y a encore eu un règlement de compte à Marseille et puis on passe à l'information suivante. En revanche, quand ça se produit sur un petit village de 500 habitants où tout le monde se connaît, ça a beaucoup plus de retentissement. Parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas opposer mais mettre en parallèle, c'est l'insécurité avec les chiffres, par exemple sur les homicides qui viennent d'être dévoilés, d'une part, mais d'autre part, il y a le sentiment d'insécurité qui n'est pas lié aux chiffres, mais juste au ressenti des gens. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui englobe aussi la réalité dont on a parlé toute la semaine.
Alors, puisque dans cette émission, on s'intéresse aux chiffres, on s'intéresse aussi aux mots, il faut aussi préciser que le mot violence, il recouvre plusieurs réalités. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. La violence, c'est un mot qui comprend les vols, les coups et blessures, les homicides, etc. Alors, on a interrogé le service statistique du ministère de l'Intérieur. La violence dans les campagnes a-t-elle augmenté ces 5 dernières années ou a-t-elle baissé? Eh bien, en fait, ça dépend des indicateurs. Écoutez.
Ce qui baisse, ça va être la délinquance type vol avec arme, vol violent sans arme, ça c'est en baisse. Les vols sans violence également, les vols de véhicules, les vols dans les véhicules, même les cambriolages, c'est plutôt en baisse sur plusieurs années. Alors que les phénomènes qui sont plutôt en hausse, c'est les coups et blessures volontaires, surtout intrafamiliaux, et les violences sexuelles, avec des phénomènes sociaux derrière qui traduisent pas que ce qui se passe sur le terrain, mais aussi la propension des gens à se rendre en brigade de gendarmerie ou en commissariat de police.
Un mot sur ces chiffres peut-être, Jérôme Poirot.
Oui, ce qui est le plus remarquable, enfin le plus intéressant là et le plus inquiétant, c'est l'augmentation des violences volontaires et des violences sexuelles, notamment, ça a été dit par votre intervenant, dans le cadre intrafamilial. Ça peut être à la fois des violences pures et des violences sexuelles. Et il faut rappeler d'ailleurs que quels que soient les types de violences, ce sont les femmes qui sont les victimes principales de ces violences.
Avec une difficulté parfois de lecture des chiffres, Vincent, puisque le ministère rappelle systématiquement, notamment pour les violences sexuelles, qu'on est dans un contexte de libération de la parole.
Effectivement, et c'est des chiffres qu'on a l'habitude de commenter, et on le dit, ça augmente d'année en année, mais parce que ça s'accompagne de ce mouvement de libération de la parole. Et quand on parle de violences intrafamiliales, on n'est pas ici sur une rixe qui se produit dans la rue, on est sur quelque chose dans un huis clos, et effectivement, c'est au sein de la famille, et c'est parfois aussi sur des violences qui viennent être révélées aujourd'hui, mais qui peuvent dater d'années et voire de décennies en arrière. Donc c'est aussi ce mouvement de libération de la parole qui fait augmenter mécaniquement, on pourrait dire, en partie ces chiffres.
Alors, Jérôme Poirot, tout à l'heure, vous parliez d'un point intéressant qui est celui du trafic de drogue. Et effectivement, quand j'ai interrogé Michel Fournier cette semaine, qui est le président des maires ruraux de France, il m'a dit, selon lui, l'insécurité n'explose pas, mais elle augmente, et notamment tirée par cette violence liée au trafic de drogue. On va l'écouter.
La ruralité et les ruralités ne sont pas exonérées de cela. Ça veut dire que aussi dans nos territoires, on connaît de nouvelles formes de délinquance liées à cet aspect de la drogue. Et donc, je ne veux pas tout focaliser sur la drogue, parce que ça peut être aussi d'autres rivalités, mais il y a une réalité. Et dire que ça augmente, certes, je le pense sincèrement qu'il y a une augmentation, mais encore une fois, on n'est pas dans des situations où, le Far West encore, il ne faut pas exagérer.
Ah, Jérôme Poirot, je vous vois réagir sur le Far West.
Oui, non, mais il a évidemment raison. Mais il y a deux choses, il y a deux phénomènes qu'il faut distinguer. C'est le nombre en valeur absolue, comme vous l'avez montré, rapporté à 100 000 habitants. Évidemment, il y a beaucoup moins de faits violents dans les campagnes, mais il y a l'augmentation, les tendances, et c'est ça qui est le plus inquiétant, et c'est ça que les populations ressentent le plus. C'est pour ça que les responsables politiques ont une tâche qui n'est pas aisée. Il faut à la fois traiter les violences du point de vue statistique, donc est-ce qu'elles montent, est-ce qu'elles baissent, l'idée c'est quand même de les faire baisser, mais il faut aussi traiter le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire ce que ressent la population, qui est parfois déconnectée des réalités statistiques. Mais les deux phénomènes doivent être traités, parce que même si les violences baissent, mais que le sentiment d'insécurité augmente dans la population, c'est un problème politique majeur.
Comment on peut expliquer cette expansion des trafics de drogue, notamment dans les milieux ruraux? Est-ce que c'est parce qu'en ville, on s'attaque plus au problème? Est-ce que c'est un souci de tranquillité de la part des dealers, des trafiquants?
Non, mais il y a des clients partout. Et ça fait très longtemps, ça fait des décennies. Et moi-même, j'ai vécu dans les Vosges ma jeunesse, donc je ne connais pas ce maire, mais je vois très bien quel peut être
l'environnement.
La vie et l'environnement. Il y avait déjà, quand j'étais au lycée, un peu de trafic de drogue, qui était très discret, qui ne générait pas de violence. Mais les consommateurs sont en plus grand nombre, et non seulement de cannabis, mais aussi de drogues synthétiques, de cocaïne. Donc il y a davantage de profits, et donc qui dit davantage de profits? Je ne dis pas que les Vosges vont ressembler à Marseille, mais forcément des rivalités entre des réseaux, entre des trafiquants, qui vont déboucher inévitablement sur potentiellement davantage de violence, de règlement de compte.
Vincent.
Oui, parce qu'on le voit, en fait, c'est aussi l'explosion du marché qui fait donc exploser le nombre de vendeurs et de trafiquants. On l'a vu sur Marseille, à partir du moment où on a plusieurs bandes rivales qui vont contrôler le secteur, d'autres bandes rivales vont s'orienter à l'extérieur de la ville et puis on va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, on va étendre et on va atteindre petit à petit les zones rurales. Donc c'est aussi ça qui explique en partie l'arrivée du trafic de drogue dans des zones qui n'étaient pas habituées à ça. C'est l'explosion du nombre de protagonistes à la vente, à l'origine du truc, qui fait augmenter le nombre de clients potentiels.
Alors, il y a les chiffres de l'insécurité dans les zones rurales, et puis vous le mentionnez, il y a le sentiment d'insécurité, le ressenti des habitants. Et là, Michel Fournier, il a une métaphore météo qui est assez parlante, on l'écoute.
Là, vraiment, vous touchez quelque chose qui est très important. J'ai découvert qu'aujourd'hui, quand il faisait moins 2, au point de vue climat, on pouvait avoir un ressenti de moins 10. Ça veut dire que le ressenti aujourd'hui est exagéré par rapport à la situation. Mais il est vrai que ce ressenti existe. Pourquoi ? Parce que c'est les réseaux sociaux, les médias font mettre en avant certaines actions et mauvaises actions, ou bonnes actions d'ailleurs, vis-à-vis de tout public. Et surtout, c'est renforcé par ces réseaux sociaux qui accélèrent le phénomène du ressenti, qui est important et le rôle des élus va être déterminant. C'est que nous avons une nouvelle obligation, c'est de faire de la pédagogie et finalement de ne pas d'arrêter peut-être un peu la spirale qui pourrait se mettre en place.
C'est ça, Jérôme Poirot, quand ils sont moins 2, on ressent moins 10.
Oui, alors j'étais d'accord avec lui jusqu'à ce qu'il stigmatise à la fois les journalistes et les réseaux sociaux. Mm-hmm. L'information circule davantage et c'est une excellente chose dans les démocraties, mais là où il a raison, c'est qu'effectivement ça crée des phénomènes, des sentiments qu'il faut traiter. Alors, il dit les élus doivent faire de la pédagogie. Ça n'est pas facile. Dans l'exemple de Crépol, que pensent les gens ? Ils pensent que c'est inacceptable que ça ait pu arriver. Voilà. Et donc, c'est ce message-là, c'est ce type de message-là qu'ils adressent aux élus. Les élus, qu'ils soient des maires, des présidents d'associations de maires ou des ministres, peuvent toujours brandir des statistiques en disant ça va mieux ou ça augmente moins que ça a augmenté. La plupart des gens, ce qui compte, c'est effectivement ce qu'ils ressentent et plus encore ce qu'ils craignent pour eux-mêmes, pour leurs enfants.
Merci beaucoup. Merci Jérôme Poirot. Merci Vincent d'avoir été avec nous.